Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé-Just et cette semaine au podcast, eh bien, je vais avoir la chance d'être accompagné par Anthony Auclair et d'y rapprocher des Buccaneers de Tampa Bay, des Buccaneers qui ont défait les Colts d'Indianapolis. Hier, malheureusement, toutefois, ils sont officiellement éliminés, mais en compagnie d'Anthony, eh bien, on va jeter un coup d'œil à la course aux éliminatoires du côté de l'Association nationale. C'est vraiment une course qui est très corsée. Il y a des équipes qui pourraient terminer avec des fiches de 10 victoires et 6 défaites et même ne pas participer aux éliminatoires. Alors, on va en jaser avec Anthony. Bien sûr, on va faire un tour d'horizon également des rencontres qui étaient présentées à travers la NFL. On va revenir sur cette défaite des Patriots contre les Chiefs de Kansas City. Une belle performance de la part des Chiefs. Et bien sûr, on va parler de ce match qui était complètement, mais complètement fou entre les 49ers de San Francisco et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et à la fin du podcast, bien, je vais vous parler des rumeurs qui circulent concernant le poste de directeur général du côté des Alouettes de Montréal, bien sûr, dans la Ligue canadienne, poste qui est toujours vacant. Alors, le podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Alors, Anthony Auclair, on va aller le rejoindre via FaceTime. Anthony, merci de te joindre à nous. C'est toujours très apprécié. Je sais que tu as eu un week-end très occupé. Tu as des gens de ta famille là, qui étaient descendus pour venir te voir à Tampa pour assister à la rencontre contre les Colts.
Yes, merci de me recevoir, Didier. Oui, ma famille était ici. C'est un voyage planifié d'avance. J'étais censé jouer, mais là, il arrive ce qui arrive. Fait que c'est bien correct comme ça.
Ouais, puis comment, bon, là, t'as pas encore commencé la remise en forme, mais comment va ton pied, comment va ton orteil, là? Ça fait déjà quelques semaines que tu as été opéré.
Oui, ça va bien. Cette semaine, je peux commencer à marcher tranquillement dessus, puis mettre du poids un peu plus, là. Mais ça, c'est un long processus, mais ça va bien.
Oui, bon, ben parfait. On souhaite que ça va continuer là, en allant, en s'améliorant, bien sûr. Alors, du côté des Bucs, bon, je le mentionnais en ouverture, malheureusement, vous êtes maintenant officiellement éliminé. Mais toutefois, bon, vous avez été en mesure de vaincre les Colts et de faire mal aux Colts, de réduire leur chance de participer aux éliminatoires. Ça a été une victoire des Bucs par la marque de 38 à 35. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Ça a été un match qui a vraiment été serré, là.
C'est un excellent match, honnêtement. Puis, tu sais, je pense qu'on s'est tiré un peu dans le pied au début de la rencontre, puis on a finalement réussi à revenir puis gagner cette partie-là qui était importante pour nous, qui est importante pour l'organisation. Puis c'est notre troisième victoire de suite. Puis en ce moment, à 6 victoires, c'est la meilleure fiche que personnellement avec l'organisation que j'ai eue en 3 ans. Donc tout ça est positif. Il s'agit de construire là-dessus puis de continuer le reste de la saison, sachant que nos chances aux éliminatoires sont maintenant à zéro, mais on contrôle ce qu'on peut contrôler en ce moment, puis c'était de gagner les prochains matchs. Donc, on essaie de faire ça le plus possible.
Oui, vous avez une fiche de 6 victoires et 7 défaites. Donc, il est toujours possible là, de terminer avec une fiche gagnante là, si vous êtes en mesure de remporter vos 3 derniers matchs.
Ben, c'est ça. Pour une organisation qui dans les dernières années, qui ça n'a pas très bien été, qui n'a eu pas beaucoup de victoires, c'est vraiment important pour nous de finir avec une fiche positive. Même une fiche à 500, je dirais que c'est quelque chose qui est positif pour l'organisation. C'est ça qu'on veut faire, au moins une fiche de 500. Donc, on se concentre un match à la fois, c'est sûr, mais chaque victoire est vraiment importante pour l'organisation.
Oui, bon, ben, on vous souhaite d'être en mesure de terminer la saison régulière en force. Parce que, comme tu dis, au moins, c'est un signe d'amélioration, le fait que vous avez déjà 6 victoires. Alors, c'est un plus grand nombre de victoires qu'au cours des dernières années. Écoute, la rencontre de la semaine, bon, elle mettait aux prises une des formations de ta section, de la section sud du côté de la Nationale. Je parle, bien sûr, des Saints de la Nouvelle-Orléans qui recevaient les 49ers de San Francisco. Ça a vraiment été un match de fou. Une victoire des Niners par la marque de 48 à 46. Tu connais bien les Saints. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, premièrement, lorsque tu as vu la marque finale et l'allure de cette rencontre?
Je suivais un peu tous les matchs en même temps, de regarder notre équipe jouer. J'étais dans la loge au stade des Bucks, puis avec comme plein de TV avec tous les matchs qui se jouaient. Fait que je suivais ça un peu. Puis c'est ça, c'est un match important pour l'avantage du terrain en série pour les deux équipes. Puis regarde, je pense que c'était peut-être un avant-goût du match de championnat de l'Association nationale. Donc, c'était un très grand match, c'était serré, puis c'était le fun à voir, ça, c'est sûr.
Oui, encore une fois, bon, il y a eu les arbitres. On est habitué à ça maintenant. C'est comme rendu la norme là, du côté de la NFL. Là. Il y a eu des décisions douteuses là, du côté des arbitres, notamment là, sur un jeu truqué du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça n'a vraiment pas fait l'affaire de Sean Payton. Mais ça a été toute une démonstration du côté des deux attaques. Parce que, bon, naturellement, avec la marque finale 48 à 46, les défenses ont arrêté personne durant le match. Mais autant du côté de Kyle Shanahan, Sean Payton, on a vraiment vu que, comme si on était à un autre niveau, là, au niveau du coaching, au niveau du plan de match en attaque. Tu connais bien les Saints, tu les affrontes deux fois par année depuis le début de ta carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire au propos de cette attaque-là, qui semble pas vraiment avoir de faille, là?
Pour revenir, en fait, tu parlais du miss call sur le jeu truqué des 49ers. Je pense, mais je suis pas certain de ce que je vais dire, mais je pense que tu n'as pas de PI, tu n'as pas d'interférence défensive, quelque
Ouais,
chose
pas
sur
d'obstruction
punt
sur un jeu.
return.
Exact, ouais.
Ça compte le joueur qui est le plus à l'extérieur. Donc, ça, je suis pas sûr que c'est un miss call, mais c'est sûr que t'sais, la passe est dans les airs et tout ça, c'est dur de pas penser que ça peut être une pénalité, mais
Ouais, non, t'as
t'sais.
raison, c'est ça. Il peut pas avoir d'obstruction parce que, bien sûr, le joueur à
Exact.
l'extérieur dont tu passes, c'est le gunner. Et puis, ben,
Ouais.
c'est sûr qu'il va y avoir de l'obstruction parce que tu veux l'empêcher d'être en mesure de couvrir
Exact.
le boté.
Et c'est ça. Et puis lui, il sait pas que dans le fond, c'est une passe qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc, comment qu'il peut savoir ça en réalité, tu sais?
Ouais,
Ou
non, c'est
s'il
ça.
si sait, il faut qu'il profite du fait qu'il n'y a pas de pénalité là, sur ce
Ouais.
jeu-là. C'est ça,
Ouais.
certain.
Mais je pense que Sean Payton, son argument, il disait que c'est une pénalité pour avoir retenu. C'est ce qu'il demandait, c'est ce qu'il semblait demander aux arbitres. Parce que comme tu l'as bien expliqué, on ne peut pas avoir une pénalité pour obstruction sur un jeu truqué, sur un botté de dégagement, naturellement. Alors ça, bon, ça semait la controverse. Surtout, on sait, les Saints, ils ont un historique avec les arbitres, qu'est-ce qui est arrivé lors du match éliminatoire la saison dernière contre les Rams de Los Angeles. Drew
Mais c'est ça,
Brees.
j'étais surpris que ça tombe contre eux, en fait,
Encore? Ouais, c'est ça.
avoir joué là-bas, tu sais.
Ouais.
Mais
Écoute,
c'est drôle, c'est drôle.
les arbitres sont constants depuis le début de la saison. Tu n'es pas obligé de commenter ça, là. Je ne veux pas te mettre dans le trouble. Mais non, c'est ça. Exactement. Ne dis rien, Anthony. Mais George Kittle, écoute, il a connu tout un match, puis il a réussi le jeu de la rencontre. C'était une situation de 4e et 2 que les 49ers faisaient face. Et je ne sais pas si tu as vu le jeu. On l'a laissé en 1 contre 1. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pensé du côté de la défense des Saints, parce que c'était certain, en situation de 4e et 2, il me semble qu'on allait tenter une passe en direction de George Kittle. C'est la cible favorite de Garoppolo. Puis il est allé vraiment de tout un effort afin de gagner des verges supplémentaires. Tu as un ailier rapproché toi-même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là de la part de Kittle? Qu'est-ce que tu penses de Kittle en tant que joueur? Parce qu'il semble être le meilleur ailier rapproché de la NFL présentement.
Il est vraiment, c'est quelqu'un qui a surpris tout le monde en sortant du draft, puis je le sais parce que c'est quelqu'un qui était dans mon draft year, en fait. On est sortis en même temps. Il a surpris tout le monde. Tu sais, ce gars-là, il court aussi vite que OJ, si c'est pas plus vite que OJ. Puis OJ, il était considéré comme un tight end assez rapide. Il est vraiment athlétique, puis c'est fou ce qu'il fait, c'est fou ce qu'il accomplit depuis 2 ans. Puis, tu sais, je suis pas surpris du tout de voir le jeu d'hier, en fait, parce que, tu sais, à chaque jeu, il y a un effort maximum, puis il veut vraiment gagner, puis ça paraît là, à travers son jeu là, que lui, c'est son but ultime, c'est de gagner le match, puis c'est ça qu'il faut, puis c'est ça qu'on devrait tout avoir, en fait, comme athlète dans cette ligue-là.
Ouais, puis Kittle avait passé sous le radar dans le temps du repêchage, parce que c'est un produit de l'Université d'Iowa. Et lorsqu'il jouait pour les Hawkeyes, on lui demandait principalement de bloquer. Et donc, on lui lançait pas beaucoup de passes, il n'y avait pas de grandes statistiques. Puis lorsqu'il s'est présenté au Combine, au camp d'évaluation de la NFL, c'est là, comme tu dis, il avait réussi un excellent chrono aux 40 verges, son saut vertical, son saut en longueur a été exceptionnel. C'est là les gens se disaient, mon Dieu, OK, il est vraiment un bon athlète. C'est ça qui fait que c'est un ailier rapproché complet, parce que c'est également un très bon bloqueur. Puis lorsqu'il était
Exact.
blessé plus tôt cette saison, on avait vu également une baisse de régime du côté du jeu au sol des 49ers. Alors selon toi, est-ce que c'est l'ailier rapproché le plus complet de la NFL? Du moins, c'en est un de ceux-là.
Je dirais que c'est pas mal dans le top, c'est sûr et certain. 2019, là, tu sais, tout ce qu'il apporte sur la table, c'est fou, effectivement.
Absolument. Ben écoute, Anthony, on va jeter un coup d'œil du côté de la course aux éliminatoires du côté de l'Association nationale. On s'en parlait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Il semble que tout ça, ça va se régler fort probablement lors de la 17e et dernière semaine d'activité. Avec leur victoire, maintenant, les 49ers détiennent la première position du côté de la nationale. Et ce sont les Packers qui sont en deuxième position avec une fiche de 10 victoires et 3 défaites. Alors, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, eh bien, ça serait les deux formations qui auraient congé lors du premier tour. Les Saints, maintenant, ils ont chuté en troisième position à la suite de leur revers. Les Cowboys sont là à 6 victoires et 7 défaites. On va voir ce qui va arriver avec les Eagles qui vont recevoir les Giants de New York. 6 et 7, c'est la même fiche que vous avez à Tampa Bay, les Bucks.
Ben c'est ça qui est plate un peu de la formule de la NFL. En fait, c'est comment que ça fonctionne. C'est qu'il y a 16 équipes par association qui sont divisées par 4 divisions. Donc, les premiers de chaque division font les séries. Ensuite de ça, c'est les deux meilleurs deuxièmes. Là, ce qui pourrait arriver, c'est que les Cowboys pourraient finir, exemple, à 6-9. En fait, 7-9, que je veux dire. Mm-hmm. Faire les séries, puis on pourrait être à 8-8, puis pas les faire. Tu sais, c'est ça qui est un peu plate dans cette ligue-là. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, puis ils veulent pas revoir leur format. Mais c'est un peu plate dans ce sens-là, que tu sais, une équipe peut finir avec une meilleure fiche qu'une équipe qui est première. Tu sais, on se rappellera, je me rappelle pas c'est quoi l'année exacte, mais les Seahawks avaient fait les séries à 7-9. Ouais, qui était premier de leur division, puis avait reçu les Saints qui avaient eu une meilleure fiche, puis finalement avait gagné le match parce qu'elle avait l'avantage du terrain. Tu sais.
Ouais, c'est le fameux match avec la fameuse course de Marshawn Lynch. Là.
Exactement, exactement. Fait que c'est un peu plate pour ça, mais en même temps, ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire les règles, mais c'est vers ça qu'on s'en va, là.
Oui, ben durant la dernière semaine, il y a des gens qui disaient peut-être qu'on devrait changer la formule des éliminatoires en raison de ce que tu viens de dire, mais il semble qu'on n'a pas l'intention de le faire du côté de la NFL, parce que c'est pas quelque chose qui arrive à tous les ans. Ça arrive environ une fois aux 5 ans qu'il y a des situations comme ça. C'est sûr que c'est malheureux lorsque une équipe comme la vôtre se retrouve avec une bonne fiche, peut-être avec une meilleure fiche qu'une équipe qui va potentiellement participer aux éliminatoires. Ça, j'imagine, là, ça doit être très frustrant de voir ça de votre côté. Mais on va voir comment ça va se terminer, cette course pour le premier rang de la section S du côté de la Nationale entre les Eagles et les Cowboys. Alors, les deux équipes du wildcard présentement, ce serait les Seahawks à 10-3 et les Vikings du Minnesota à 9-4. Les Rams, hier, je vais en parler plus en détail un peu plus tard durant le podcast, mais ils ont vraiment offert une belle performance face à Seattle. Les Rams qui se retrouvent maintenant avec un dossier de 8 gains et 5 revers. Les Bears ont toujours des chances à 7-6 en arrière. Donc, entre les Seahawks, Vikings et Rams, toi, quelle équipe tu favoriserais là, justement afin d'aller chercher la dernière place qui donnerait accès aux éliminatoires?
C'est sûr que selon moi, les Seahawks, c'est vraiment une bonne équipe. Là. Je pense que on a démontré ça tout au long de la saison. Ça m'a surpris qu'ils n'échappent contre les Rams, justement. Selon moi, ça devrait être eux qui accèdent aux séries en avant de ces équipes-là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Didier?
Qu'est-ce que j'en pense, moi? Ben écoute, les Seahawks, on a vu des lacunes de leur part hier, je trouve, surtout au niveau de la défense. Bon, l'attaque également, là, on n'a pas été en mesure de générer de longues séquences, mais la défense, c'était la deuxième fois qu'on affrontait les Rams et pour un deuxième match cette année, on n'a réussi aucun sac du corps aux dépens de Jared Goff. Goff, écoute, là, son chandail, je pense qu'il n'y avait aucune tache de gazon sur son chandail. Il avait beaucoup de temps afin de repérer ses receveurs. Donc, la défense des Seahawks, c'est ça qui m'a déçu au niveau de la ligne défensive, de ne pas être capable de presser le corps. Et puis même au sol, Todd Gurley a pas mal fait.
Je suis d'accord avec toi parce qu'avoir joué contre eux, puis tu sais, surtout qu'on a joué à Seattle, je trouvais que leur défensive, c'était une défensive qui est simple. C'est sûr qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont Bobby Wagner, qui est peut-être le meilleur linebacker de la ligue. Des joueurs comme ça, tu sais, bien, c'est sûr que ça va dépendre de Russell Wilson puis de ce que l'offensive va faire. Comme tu disais, la défensive, je pense que c'est pas leur force en ce moment. Leur force, c'est Russell Wilson qui est candidat pour être un MVP cette année. Donc, tout ce qu'il peut faire en série. Puis en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il comme s'il était dans le backyard, puis il se promène avec ses receveurs, puis il court un peu. Puis...
Ouais.
c'est fou la magie qu'il peut amener, mais il va tout le temps off the script, ça c'est sûr et certain, mais comme je te dis, je pense que c'est ça leur force, puis la défensive, il faut juste qu'ils tiennent le fort, puis d'après moi, selon moi, overall, je pense que c'est la meilleure équipe par contre.
Ouais, mais même les Rams, parce que les Rams, hier, ils ont vraiment bien joué, parce qu'ils ont été en mesure de presser Wilson, d'appliquer de la pression par moment contre lui. Écoute, les Seahawks, là, les matchs qui leur restent, ils vont jouer en Caroline le week-end prochain. Donc, j'ose croire qu'ils vont gagner ce match-up, parce que là, ça semble, on dirait que rien ne va plus pour les Panthers, surtout qu'ils ont congédié Ron Rivera la semaine dernière. Après ça, ils vont recevoir les Cardinals d'Arizona, puis ils terminent contre les 49ers. Alors, ça pourrait être deux victoires de plus. On verra là, qu'est-ce qui va arriver contre les Niners, mais c'est pas un calendrier qui est très difficile, c'est ce que j'essaie de dire, là, mis à part, bien sûr, le match contre les Niners du
Ouais,
côté
ce match-là va
des
être
Seahawks.
décisif, c'est sûr et certain.
Ouais, lors de la 17e et dernière semaine d'activité. Alors ça va être intéressant à voir. Alors que du côté des Vikings, eux, ils vont jouer contre les Chargers la semaine prochaine à Los Angeles. Après ça, ils vont recevoir les Packers et ils vont terminer ça en recevant les Bears de Chicago. Alors, quand même assez corsé, là. Les Chargers qui ont bien joué hier. On va voir s'ils peuvent jouer bien jouer pendant 2 semaines de suite. Et calendrier des Rams, Anthony, ils vont jouer à Dallas la semaine prochaine. Ensuite de ça, ils vont recevoir les Niners et ils vont terminer ça en Arizona.
Ah, tu vois-tu le match contre les Niners, ça va être vraiment ce qui va déterminer si cette équipe-là va faire les séries ou non.
Oui, non, 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 ça, j'ai bien hâte de voir ça. Puis pour les Cowboys, ça fait une autre équipe coriace à affronter, là. Alors ça, c'est rien pour aider les Cowboys de Dallas. Je ne sais pas si on va assister à une implosion des Cowboys en fin de saison, là, mais on dirait que ça s'enligne pour ça. En tout cas, on
On dirait
verra bien.
que c'est ça, on dirait qu'ils sont affectés par ce qui se passe autour de eux, les médias, ce que le monde dit par rapport aux entraîneurs de cette équipe-là. Je pense que tout ça, il y a comme une zone négative autour de eux, puis je pense que ça les affecte.
Oui, on dirait. Je ne sais pas si les joueurs ont. On dirait qu'ils ont abandonné. Quand on parle, il y a plusieurs rumeurs là, qui circulent concernant l'entraîneur-chef Jason Garrett. Mais c'est comme ça qu'on a abandonné là, du côté des Cowboys. Je ne sais pas si tu as vécu ça, d'avoir un entraîneur-chef qui se retrouve sur un siège éjectable depuis le début de ta carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay. Comment vous vivez ça à l'intérieur de l'équipe? Surtout là que dans les médias, c'est presque un fait accompli qu'il ne sera pas de retour la saison prochaine.
Ben nous, je sais pas comment eux ils vivent ça. C'est sûr que nous, tu sais, on continue d'aller travailler à chaque jour, de vouloir gagner chaque match. Puis je pense que l'équipe, en tant que, tu sais, dans le locker room, je pense qu'on était vraiment soudés les uns les autres. Puis je pense que c'est ça qui faisait en sorte qu'on, quand même, on allait, tu sais, on perdait des games, oui, mais on se faisait pas éclater non plus. C'était tout le temps des games qui finissaient par un toucher ou moins en fin de match. Donc on voulait vraiment gagner. Puis tu sais. Depuis que je suis ici, on a vraiment été, on est encore une jeune équipe, tu sais, en fait, là. Puis je pense que, je pense pas qu'on a jamais abandonné avec le coach qu'on avait les dernières années. Même que, tu sais, tard dans la saison, on allait chercher encore des victoires. Ça montrait juste que, malgré tout, on se foutait un peu de ce qui se passait par rapport à notre entraîneur, mais justement, qu'on voulait aller gagner des matchs malgré tout ça.
Ouais, ben on va voir comment ça va se terminer cette saison régulière pour les Cowboys. Je rappelle, ils vont affronter les Rams cette semaine. Les Rams qui semblent être une équipe là, qui pique, comme on dit, au bon moment, qui joue du bon football au mois de décembre. Puis ça, c'est toujours qu'est-ce qu'on veut faire lors du dernier, la dernière portion du calendrier, lors du dernier quart de la saison régulière. On veut terminer la saison en force et accéder aux éliminatoires. On verra si les Rams seront en mesure de le faire. Puis si les Cowboys vont être capables de se replacer. Ben, Tony, merci beaucoup de ton temps. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on se reparle au cours des prochaines semaines.
Ben merci beaucoup d'avoir reçu.
N'y a pas de quoi. Alors, comme je viens d'en parler, bon, avec Anthony, le match des 49ers contre les Saints, ça a été tout un match. Il y a quelques points, bon, que j'ai pas eu le temps de parler lorsqu'on discutait avec Anthony. Du côté des Saints, ben, premièrement, j'ai pas été surpris que les Niners l'emportent. J'ai choisi les Niners afin de l'emporter à l'émission Faites vos jeux. Mais toutefois, bon, comme tout le monde, j'ai été surpris de l'allure de la rencontre. Personne croyait qu'on allait assister à un festival offensif comme ça a été le cas. J'ai été surpris que la ligne défensive des 49ers n'a pas été en mesure de prendre contrôle de la rencontre. Moi, je croyais vraiment que la ligne défensive des Niners allait appliquer une pression constante sur Drew Brees, mais ça n'a pas été le cas. Brees a été sensationnel. 349 verges par la passe, 5 passes de toucher, aucune interception. Il a également inscrit un touché au sol. Alors, pour les propriétaires de Drew Brees au niveau du Fantasy Football, les éliminatoires commençaient. On ne peut pas lui demander beaucoup mieux. Également, Jimmy Garoppolo, tout un match, 349 verges également par la passe, 4 passes de touché, une interception. Alors, Garoppolo qui joue vraiment très bien depuis un mois. On a été sévère à l'endroit de Jimmy Garoppolo au début de la saison régulière. On se disait, bon, les 49ers semblent gagner en dépit de Garoppolo, mais il y avait deux facteurs dans tout ça. Premièrement, Garoppolo, il avait raté la saison 2018 pratiquement au grand complet en raison d'une blessure à un genou. Et ça prend toujours un certain temps, là, lorsqu'on subit une grave blessure à un genou, afin de retrouver notre rythme. Au niveau mental également, de faire confiance à notre genou, qu'on va être le même joueur. Alors ça, il y avait une adaptation à faire du côté de Garoppolo, mais également les Niners gagnaient pratiquement 200 verges au sol à toutes les rencontres. Alors on ne lui demandait pas de faire beaucoup de choses, mais au cours du dernier mois, on est allé chercher des victoires importantes grâce à Jimmy Garoppolo. Et ça, c'est pas en dépit de Garoppolo. On l'a vu lors de la dernière séquence qui a mené au placement victorieux de Robbie Gould. Garoppolo était en contrôle de la situation. Alors, une excellente performance de sa part. Il y a un joueur là qui commence à m'inquiéter du côté des Saints, c'est Alvin Kamara. Il a été victime d'un échappé. C'est vraiment pas un bon moment de la rencontre, bien sûr, dans un match qui était aussi serré. Mais également, il a maintenu une moyenne seulement de 1,9 verges par course contre les 49ers. Et si on regarde à l'opposé, mais l'autre porteur de ballon des Saints, Latavius Murray, eh bien, lui a une moyenne de près de 9 verges par course comparativement. Alors, Kamara ne connaît pas une grande saison. Je sais qu'il a été ennuyé par des blessures. Je ne sais pas s'il est toujours ralenti par les blessures. Mais seulement 4 réceptions pour 18 verges. Il semble que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un excellent match de la part d'Alvin Kamara. Alors ça va être à surveiller parce que pour accéder au Super Bowl, les Saints vont avoir besoin d'une meilleure production de Kamara, selon moi. Et pour ce qui est des Colts, bon, on en parlait avec Anthony, qui ont perdu face aux Buccaneers. Bon, ça semble être fini pour les Colts, leur chance de participer aux éliminatoires. Encore une fois, lorsqu'on n'a pas T.Y. Hilton, on n'a pas de receveur explosif du côté d'Indianapolis. Maintenant, un autre match qui retenait vraiment l'attention, c'était les Ravens de Baltimore qui rendaient visite aux Bills. Baltimore a gagné 24-17. Buffalo a bien joué défensivement. Là, on a su limiter les dégâts face à la puissante attaque des Ravens, qui est bien sûr menée par Lamar Jackson. Les Bills ont forcé quand même 7 bottées de dégagement du côté des Ravens de Baltimore. Alors ça, on a vraiment bien fait, mais c'est l'attaque des Bills, selon moi, qui a coûté le match à Buffalo. Josh Allen a complété seulement 17 des 39 passes qu'il a tentées. Il a été victime de 6 sacks. Il faut donner crédit à la défense de Baltimore. Le coordinateur défensif Wink Martindale, moi j'ai bien l'impression qu'il va être un des candidats au poste d'entraîneur-chef une fois que la saison va être terminée, parce que ça fait longtemps qu'il est là en tant que coordonnateur. Et les Ravens, généralement, ont toujours une bonne défense, une défense solide. Et c'est surtout l'amélioration qu'on a vue du côté de l'unité défensive de Baltimore depuis le début de la saison qui m'impressionne de la part du coordonnateur Martindale. Mais Josh Allen, il est imprécis, il s'est amélioré. On l'avait vu, bon, face aux Cowboys, ça avait bien été. Mais encore une fois, il n'est pas assez constant en tant que passeur. Alors ça, j'ai hâte de voir si les Bills réussissent à s'aligner une place en éliminatoire. Ça ne sera pas quelque chose qui va venir les hanter, le manque de conscience d'Allen en tant que passeur. Du côté bon de l'attaque des Ravens, 3 passes de toucher pour Lamar Jackson. Il a perdu les services de l'ailier rapproché Mark Andrews, qui n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Mais toutefois, Hayden Hurst a connu tout un match. Il a notamment inscrit un toucher de 61 verges. Il nous a démontré, malgré son gros cabaret, qu'il est rapide. Et pourquoi? Ben, Hurst et Mark Andrews, habituellement, donnent des mots de tête aux défenses adverses. En tant qu'ailier rapproché, ils ont beaucoup de vitesse avec leur gros physique. Toutefois, les Ravens, sa position de receveur extérieur, là, les ailiers rapprochés, c'est bien beau. Bon, on est limité. Hein? Marquise Brown, bon, jusqu'à présent, nous a démontré qu'il est en mesure de réussir de longs jeux, mais il n'est pas encore un receveur complet. On a Snead, mais bon, Snead, c'est un receveur de possession. Mais alors ça va être quelque chose à surveiller du côté de l'attaque de Baltimore, surtout en éliminatoire. Les Falcons d'Atlanta ont écrasé les Panthers à Caroline par la marque de 40-20. Bon, les Panthers, je l'ai mentionné brièvement lorsque je m'entretenais avec Anthony Auclair, qui ont congédié Ron Rivera, leur entraîneur-chef, la semaine dernière. Il me semble là, qu'on est en chute libre là, du côté de la Caroline. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne en défense. Écoutez, là, on se fait écraser semaine après semaine. Et du côté de l'attaque, même Christian McCaffrey là, n'est plus aussi productif qu'il ne l'était il y a quelques semaines à peine, parce que là, Kyle Allen ne fait pas de travers à position de carrière. On peut utiliser des ressources afin de ralentir McCaffrey, étant donné que le jeu aérien ne fonctionne pas bien du côté des Panthers. Alors vraiment, ça semble être une équipe en chute libre. Matt Ryan, carrière des Falcons, a amassé 313 verges par la passe, complété deux passes de toucher. Puis je me demande maintenant, est-ce que l'entraîneur-chef Dan Quinn est en train de peut-être sauver son emploi? On se souviendra, il y a peut-être quoi, un mois et demi, du moins à la mi-saison, on se disait, ça y est, c'est terminé pour Dan Quinn à Atlanta. Mais les Falcons qui jouent mieux depuis leur semaine de congé. Alors, on joue vraiment mieux, on voit une amélioration. On a un dossier de 4 et 9, mais on va voir, là, il reste encore 3 matchs. Si on peut terminer la saison en force, moi, je me demande, est-ce que finalement, on va peut-être donner une autre chance à Dan Quinn. Dans la bataille de l'Ohio, les Browns ont défait les Bengals 27 à 19. Il semble que du côté des Browns, bon, mieux vaut tard que jamais, on a finalement réalisé que l'identité en attaque se doit d'être le jeu au sol, surtout qu'on ne compte pas juste sur un excellent porteur de ballon, mais bien deux depuis le retour au jeu de Kareem Hunt, donc jumelé avec Nick Chubb dans le champ arrière. Chubb qui a amassé plus de 100 verges au sol. Kareem Hunt qui a inscrit un touché. Et on se rend compte là, qu'on a vraiment réalisé ça là, du côté de l'attaque des Cleveland. Au niveau du choix de jeu, ça ne ment pas. On a sélectionné 27 courses contre 24 passes, donc on a eu un bon équilibre, et c'est ce qu'on devait faire, surtout face à la défense contre la course des Bengals, qui est une des pires de la NFL. Il n'y a aucun doute, j'en parlais la semaine dernière, les Bengals sont une bien meilleure équipe avec Andy Dalton au poste de quart. Joe Mixon, porteur de ballon de Cincinnati, il a connu un fort match, hein, 23 courses, 146 verges, un touché. Odell Beckham, bon, deux réceptions pour 39 verges. Ça, c'est pas un bon signe, Freddie Kitchens, qui est supposé être un génie offensif, incapable de remettre le ballon, de dessiner des jeux afin de mettre Odell Beckham en évidence. Il me semble que ça ne peut pas être difficile. Beckham est possiblement le receveur le plus talentueux de la NFL. Alors, on verra s'il sera de retour à Cleveland la saison prochaine, Odell Beckham. Du côté des Browns, bon, on a maintenant un dossier de 6 et 7. Si on pouvait éviter d'avoir une saison perdante à Cleveland, ça serait déjà un accomplissement. Si on pouvait terminer au moins avec un dossier de 8 et 8, ce qui est toujours possible, on peut même terminer à 9 et 7. Mais ça, ce serait quelque chose de bien. Puis qui sait, peut-être que ça serait suffisant pour que Freddie Kitchens soit en mesure de sauver son emploi. On verra bien. Les Packers, bon, ils ont défait les Redskins par la marque de 20 à 15. Les Packers semblent avoir fait le minimum pour l'emporter. Ils avaient pris l'avance au début. Ils ont laissé les Redskins revenir dans le match. Mais bon, Washington n'est pas une bonne équipe, alors Green Bay est en mesure de l'emporter. Aaron Jones a connu tout un match. 16 courses, 134 verges. Il a inscrit un touché. Et en plus de ça, il a ajouté 58 verges sur 6 réceptions. Alors Aaron Jones continue son excellente saison, autant au niveau du jeu au sol, mais également en tant que receveur de passe. Les Vikings, ils ont gagné 20 à 7 contre les Lions. Encore une fois, comme les Packers, ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire afin de l'emporter face à une équipe qui est mauvaise, tout simplement. C'est un retour sur terre pour la carrière des Lions. David Blau avait bien fait lors de la Thanksgiving. Il avait surpris tout le monde. Il avait connu un bon départ contre les Bears de Chicago, mais c'est ce qui arrive dans la NFL. David Blau, c'est un joueur qui est non repêché. On ne le connaissait pas. Il a réussi à surprendre. Mais là, les défenses adverses, bien là, ils ont du vidéo sur David Blau. C'est ce qui arrive. Alors, on commence à apprendre, à connaître ses tendances. Et Blau semblait hésitant tout au long de la rencontre. Il est temps que la saison se termine du côté des Lions de Détroit. Ça, c'est une autre formation à voir. Est-ce qu'elle va garder son entraîneur-chef, Matt Patricia? Patricia, il a une excuse en poche. Il peut dire qu'il a été privé des services de son carrière, Matthew Stafford, pendant la majorité de la deuxième moitié de la saison, mais tout de même. C'est pas comme si ça allait bien nécessairement lorsque Stafford était là. On va voir ce qui va arriver. Alors, les Vikings qui n'ont pas échappé à ce match-là afin de maintenir leur chance de participer aux éliminatoires. Les Jets ont défait les Dolphins 22 à 21. Bon, ça, c'est deux équipes qu'on ne verra pas au mois de janvier. Aucun toucher n'a été inscrit par les Dolphins. Leur batteur, Jason Sanders, a réussi 7 placements. Alors, si vous avez Sanders au sein de votre équipe de fantasy football et que vous étiez en éliminatoire, là, vous avez eu 21 points de la part de votre batteur. J'espère que vous avez gagné votre semaine. Honnêtement, j'ai pas porté attention beaucoup à cette rencontre-là, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça. Mais bon, tant mieux pour les Jets qui ont été en mesure de l'emporter par un point. Maintenant, la surprise de la semaine. Elle s'est passée à Houston. Les Broncos qui ont défait les Texans 38 à 24. Écoutez, 38 à 24, puis le match n'était même pas aussi serré que ça. Ce match-là était fini à la mi-temps, tout simplement. Alors, les Broncos qui ont vraiment surpris les Texans de Houston, les Texans qui perdent de cette façon à domicile. La semaine dernière, ils avaient défait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils se sont fait dire pendant toute la semaine qu'ils étaient bons, qu'ils étaient beaux. Puis, écoutez, il y a une expression au football, on parle d'un « trap game ». Ça, c'est lorsqu'on a un match contre une équipe qui connaît une saison difficile et que ce match-là est entouré de deux matchs contre de bonnes formations. Alors, on a défait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Là, on affrontait les Broncos de Denver. La semaine prochaine, on affronte les Titans du Tennessee du côté des Texans de Houston. Alors, il n'y a aucun doute qu'on a pris à la légère les Broncos de Denver, qu'on pensait déjà à notre affrontement face aux Titans du Tennessee. C'est vraiment ce qui est arrivé. Un bon vieux classique, un bon vieux trap game. Alors, les Texans qui sont fait surprendre, Drew Lock, carrière recrue des Broncos de Denver, 22 en 27, 309 verges, 3 passes de toucher. Il a été victime d'une interception. Hey, Locke est 2 en 2, là. 2 départs, 2 victoires. Il a vraiment bien fait. On va voir si ça va se poursuivre. Parce que comme je le disais pour David Blau, le carrière recrue des Lions de Détroit, il avait connu un beau départ, mais là, on voit que les défenses s'ajustent à lui. Ça, on va surveiller ça là, au cours des prochaines semaines. Drew Lock, si les défenses adverses vont également s'ajuster à lui. Naturellement, Lock est beaucoup plus talentueux que Blau. On le voit, il possède un bon bras. Mais il ne faut pas partir en peur. Mais une chose qu'il faut dire du côté de Denver, c'est qu'on a été dans les matchs. Hein. Depuis le début de la saison, on ne s'est pas fait déclasser. Règle générale, on perdait des matchs serrés. Mais la question est de savoir si on peut terminer la saison régulière et que Drew Lock peut donner de l'espoir à cette concession, parce que ça fait longtemps qu'on est à la recherche d'un carrière. Eh bien, ça, là, ça pourrait bien augurer pour la saison morte à Denver. Les Chargers ont facilement vaincu les Jaguars 45 à 10. Il y a un ménage qui s'en vient à Jacksonville. Je ne peux pas croire que ça peut continuer comme ça. Peu importe quelle carrière, c'est Gardner Minshew qui a obtenu un autre départ. Peu importe, cette concession-là ne va vraiment pas dans la bonne direction. Là, souvenez-vous, il y a à peine 2 ans, les Jaguars avaient l'avance à la mi-temps contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match de championnat de l'Association américaine. Puis là, depuis, rien ne va plus pour cette concession. On blâmait Jalen Ramsey. Jalen Ramsey est parti avec les Rams. Les Rams ont bien, ils jouent bien défensivement. Et clairement, c'était pas Jalen Ramsey qui était le problème du côté de Jacksonville. Alors oui, il y a un ménage qui s'en vient. Austin Eckler, le porteur de ballon des Chargers, a connu tout un match, encore une fois, 213 verges d'attaque pour Austin Eckler, qui, selon moi, est supérieur à Melvin Gordon. Gordon va devenir un joueur autonome à la fin de la saison. Il n'y a aucun doute que les Chargers ne vont pas retenir aussi services. Pourquoi ils le feraient? Ils ont Eckler qui est un meilleur joueur. Les Titans du Tennessee poursuivent sur leur lancée. Ils ont défait facilement les Raiders par la marque de 42 à 21. Bon, c'était serré pendant un certain moment, mais la meilleure équipe a été en mesure de se mettre en marche. Ryan Tannehill, 391 verges par la passe. Il a complété 3 passes de toucher. Alors, les Titans là, qui continuent avec Tannehill au poste de quart à jouer de l'excellent football. La présence de Tannehill, ça rend les receveurs de passe du Tennessee meilleurs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça donne un coup de main également à Derrick Henry. On possède des gros receveurs qui sont robustes du côté du Tennessee. Mais une chose qui va être à surveiller, que j'écris dans mes notes, ça va être l'état de santé de Derrick Henry, parce qu'on l'a vu hier en deuxième demi. Il ne semblait pas être à 100%. Hein. Lorsqu'il se retrouvait au deuxième niveau, il n'ouvrait pas la machine, ne se mettait pas en marche. Il est ennuyé par une blessure aux ischios jambiers. On sait à quel point il est important du côté de l'attaque du Tennessee. Alors, son état de santé sera à surveiller. Chez les Raiders, ben, on se rend compte qu'on n'a pas de talent en défense. On est dépourvu de talent. Encore une fois, on n'est pas capable de presser les carrières adverses. Puis là, on a commencé le dernier quart de la saison et puis on le voit. Il y a certaines équipes qui se démarquent, qui jouent du bon football. On va parler des Rams tout à l'heure, qui semblent, eux, s'améliorer. Puis il y a d'autres équipes qui nous ont surpris lors des 3 premiers quarts de la saison, mais là, qui piquent du nez. les Raiders Oakland représentent ces formations. On s'est fait éclater contre les Jets de New York, on s'est fait écraser la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City, et puis là, à domicile, on perd par 21 points contre les Titans du Tennessee. Je sais qu'on était privé des services de Josh Jacobs du côté des Raiders, mais peu importe, ça ne sera rien changé. On encaisse une troisième volée de suite. Et Derek Carr s'est retrouvé avec une situation de 4e essai. Je sais là que les Titans menaient déjà par beaucoup, mais une situation de 4e essai et début, puis il a choisi de se débarrasser du ballon. Écoute, t'as rien à perdre. Tente une passe dans la zone début en direction de tes receveurs. Là. Alors, Derek Carr, moi, il me laisse sur mon appétit. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, si on va retenir ses services durant la saison morte. Mais il y a d'autres choses à améliorer du côté des Raiders, notamment la défense. Sans que la défense ne sera pas améliorée, on ne pourra pas aspirer réellement aux éliminatoires à Oakland. Un match qui retenait notre attention, bien sûr, avait lieu au Gillette Stadium. Les Patriots qui recevaient les Chiefs. Kansas City a gagné ce match par la marque de 23-16. Et les Patriots, bien, ils ont vu leur séquence de 21 victoires à domicile se terminer avec ce revers contre les Chiefs. Bon, oui, les arbitres ont été atroces lors de ce match-là, mais comme je le disais lorsque je parlais à Anthony tout à l'heure, ils nous ont habitués à ça, les arbitres de la NFL, depuis le début de la saison. Au moins, ils sont constants au niveau de l'arbitrage. Nikhil Harry, lorsqu'il a réussi sa réception, ben oui, ça aurait dû être un touché. On ne l'a pas accordé. Donc, oui, les arbitres, ils ont été pourris. Mais encore une fois, comme ça a été le cas la semaine dernière à Houston, du côté de l'attaque de la Nouvelle-Angleterre, en position de receveur, d'ailier rapproché, on n'a pas de production. Mis à part, bien sûr, Julian Edelman. Puis là, on le voit, on a utilisé le même plan de match du côté des Chiefs qu'on avait fait la semaine dernière à Houston. On a doublé Edelman, on a mis au défi les autres receveurs et des ailiers rapprochés de nous battre. Ils étaient incapables de le faire. Ils ne gagnent pas leur bataille un contre un. Sony Michel, porteur de ballon, qui a été un choix de première ronde, n'est pas explosif. Il ne semble pas explosif. Il n'y a rien de constant du côté de l'attaque des Patriots. On a dû utiliser encore une fois des jeux truqués. En fait, deux jeux truqués. Il y en a un qui a mené un touché. Si on n'utilise pas les jeux truqués, on n'est pas capable de générer de gros jeux, d'aller chercher des gros morceaux de terrain du côté de la Nouvelle-Angleterre. Alors, Josh McDaniels qui doit sortir tous les lapins possibles de son chapeau afin que l'attaque des Patriots soit en mesure de compétitionner. Chris Jones et Frank Clark, au niveau de la ligne défensive des Chiefs de Kansas City, ils ont vraiment connu de gros matchs, ils ont récolté des sacs du quart, ils étaient dans le champ arrière constamment plaqués pour perte. Alors, on a beaucoup d'ennuis du côté de l'attaque des Patriots, la ligne à l'attaque également qui ne joue pas bien. Je sais que les Patriots ont quand même une fiche de 10 victoires et 3 défaites, donc c'est pas la fin du monde, mais je vois pas comment cette équipe-là va pouvoir se mettre en marche et se rendre jusqu'au Super Bowl avec la performance de l'attaque. Alors, il reste 3 semaines afin de trouver des solutions, mais je doute qu'on soit en mesure de le faire réellement du côté de la Nouvelle-Angleterre. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la dynastie. On va pouvoir revenir en force, possiblement l'année prochaine, en ajoutant du talent à cette attaque, aux positions de receveur, des liens rapprochés via le marché des joueurs autonomes, transactions, par le repêchage, possiblement. Mais Tom Brady va être plus vieux d'un an l'année prochaine. Il va avoir 43 ans. Alors ça sera à surveiller, mais je ne suis pas prêt à dire nécessairement que c'est la fin de la dynastie, mais je crois pas que les Patriots vont être en mesure de se rendre au Super Bowl de cette année. Je crois que ça devient pas mal évident, ça. Les Steelers de Pittsburgh, ils ont gagné 23-17 contre les Cardinals de l'Arizona. On croyait que le match avait lieu au Heinz Field, bien que c'était en Arizona. Il y avait tellement de partisans des Steelers qui étaient présents avec leur terrible towel. Devlin Hodges, 16-19, 152 verges, une passe de toucher, aucune interception à la position de carrière pour les Steelers. Alors, on continue de démontrer que clairement, il est une meilleure carrière que Mason Rudolph. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Deontay Johnson, le receveur produit de l'Université Toledo, qui a retourné un botté de dégagement pour un toucher. Deontay Johnson va devenir un bon receveur de passe. Il est très talentueux. Là, il a un impact au niveau des unités spéciales. La défense des Steelers, qui a continué son excellent travail, elle a réussi 5 sacs du quart aux dépens de Kyler Murray. Murray, qui a été victime de 3 interceptions, il a complété 2 passes de toucher. Mais je parlais là des formations qu'il a lors du dernier quart du calendrier régulier régresse ou nous démontre qu'elles ont vraiment des faiblesses après avoir connu de bons moments plutôt durant la saison régulière. Ben, les Cardinals d'Arizona sont vraiment une de ces formations-là. Et du côté de Kyler Murray, je me demande si c'est pas juste la longueur, le long calendrier de la NFL, le calendrier rigoureux qui commence à le rattraper parce qu'il semble régresser. Mais bon, c'est normal, on joue pas autant de matchs au niveau du football universitaire. Alors la première saison dans la NFL, c'est toujours très éprouvant pour les jeunes joueurs, en particulier à la position de quart arrière. Dans le dernier match qui était présenté dimanche, ce match vous était présenté sur les ondes de RDS, les Rams de Los Angeles ont vaincu les Seahawks de Seattle par la marque de 28-12. Et les Rams, ben là, à l'opposé des formations que je vous disais qui piquent du nez en fin de saison, les Rams qui jouent présentement leur meilleur football de la saison. La semaine dernière, ils avaient éclaté les Cardinals de l'Arizona. Écoutez, Jared Goff avait amassé 424 verges par la passe. On se disait, bon, c'est bien beau, mais c'était contre les Cardinals de l'Arizona. On va voir la semaine prochaine contre les Rams, contre les Seahawks, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben là, on a vu une attaque, l'attaque surtout là, des Rams, ça nous faisait penser à l'attaque qu'on avait vue du côté de Los Angeles lors de la première moitié de la dernière saison, de la saison dernière. Tout ça, ça commençait avec le jeu au sol. C'est pas une question d'avoir un jeu au sol productif avec Todd Gurley, mais c'est le fait de courir avec le ballon. Juste ça, à partir de là, on peut utiliser les dérobades du corps avec Jared Goff, déplacer ses points de lancement. On avait vraiment un excellent plan de match du côté de Sean McVay. Contre la défense des Seahawks, qui jouait bien avant la rencontre, la défense des Seahawks avait provoqué pas moins de 11 revirements à ces trois derniers matchs. Hier, elle en a réussi deux, mais on n'a pas été capable d'appliquer une pression constante sur Jared Goff. C'était le deuxième match entre les deux équipes cette année. Et lors des deux rencontres, les Seahawks n'ont récolté aucun sac du quart aux dépens de Jared Goff. La ligne à l'attaque des Rams qui en arrachait il y a environ un mois. On cherchait une combinaison gagnante au niveau de la ligne à l'attaque. On a mis des nouveaux joueurs, en particulier du côté droit. Là, on semble s'améliorer. Il semble avoir de la cohésion au niveau de cette unité. Mais tout ça commence avec le jeu au sol. Et Todd Gurley, pour une troisième fois en quatre semaines, a touché au ballon plus de 20 fois. Et ça facilite le travail de Jared Goff. Goff, hier, il a vraiment bien joué. Moi, je ne suis pas particulièrement un fan de Jared Goff, mais il a très bien joué en raison de toutes de tout ce que je viens de vous énumérer, le fait que la ligne d'attaque est améliorée, le plan de match de Sean McVay qui a fait en sorte que la pression ne s'est jamais rendue à lui. Et en défense, oui, il y a deux joueurs là, qui m'ont impressionné du côté des Rams. Il s'agit du maraudeur recrue Taylor Rapp, qui a été inséré dans la formation partante en raison de blessures, surtout en support de course. C'est un cogneur. Il n'a pas peur de se salir le nez. Et le demi de coin, à l'opposé de Jalen Ramsey, Troy Hill, il a joué un bon match contre les Seahawks de Seattle. Et pour les Seahawks, moi, je trouve que ça a été alarmant, la performance d'une unité défensive incapable d'appliquer de la pression sur Jared Goff, comme je l'ai dit. Du côté de l'attaque, on a perdu également la guerre des tranchées. Aaron Donald était constamment dans le champ arrière. On a été en mesure de presser Russell Wilson. Alors, on a perdu la guerre des tranchées, clairement, du côté des Rams. Alors, on va voir de quelle façon... Du côté des Seahawks, on a perdu la guerre des tranchées. On va voir de quelle façon on sera en mesure de terminer la saison régulière du côté de Seattle. Parce que si les Seahawks ont gagné plusieurs matchs par moins de 7 points depuis le début de la saison. Alors, est-ce qu'on a été chanceux aussi à cause de Russell Wilson qui fait toujours des miracles au quatrième quart? Mais clairement, la défense va devoir mieux jouer si on veut là, être en mesure justement de s'assurer d'une place en éliminatoire lors des trois dernières semaines. Alors ça fait le tour du côté de la NFL. On va se tourner en terminant du côté de la Ligue canadienne de football. Parce que ça bouge là, au niveau de la Ligue canadienne de football. Il y a des embauches qui se font. Le Rouge et Noir d'Ottawa qui a un nouvel entraîneur-chef. Il s'agit de Paul Lapolis. Lapolis qui était le coordinateur à l'attaque des champions de la Coupe Grey, les Blue Bombers de Winnipeg. Ça, c'est vraiment une bonne embauche de la part de Marcel Desjardins de la concession d'Ottawa d'aller chercher Lapolis. C'était le candidat numéro un en raison des succès des Bombers en attaque lors des dernières saisons et bien sûr le fait qu'on a gagné la Coupe Grey. Mais Lapolis a déjà de l'expérience en tant qu'entraîneur-chef. Il avait déjà été entraîneur-chef à Winnipeg par le passé. Alors, est-ce qu'il a appris de ses erreurs à l'époque lorsqu'il était entraîneur-chef à Winnipeg? Bien, on le souhaite. Mais du côté d'Ottawa, c'est exactement ce dont on avait besoin. On avait besoin d'un entraîneur en attaque afin d'aider Dominic Davis. Lapolis a travaillé avec Davis lorsqu'il était à Winnipeg. J'ose croire qu'on va aller chercher d'autres carrières afin de compétitionner avec Davis, avec Jonathan Jennings. Mais ce que j'aime de Paul Lapolis, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup d'imagination en attaque. Il est très créatif. offensive. L'attaque des Blue Bombers, lors des deux, trois dernières années, c'était une des plus divertissantes à regarder. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir comment il va pouvoir appliquer tout ça du côté du rouge et noir, mais je crois que c'est vraiment une bonne embauche du côté d'Ottawa. C'est ce qu'on avait besoin. Alors, on va voir si ça va pouvoir permettre au rouge et noir de se relancer en 2020. Maintenant, du côté des Alouettes, on n'a toujours pas fait d'annonce concernant le directeur général, oui. On sait que Kerry Jones sera de retour. On nous a annoncé il y a quelques semaines qu'il avait signé une prolongation de contrat. Question de savoir qui sera le directeur général des Alouettes. Eh bien, selon ce qui a été rapporté par plusieurs médias, selon ce qu'on m'a dit, les Alouettes ont également rencontré Danny McManus, qui est assistant directeur général du côté des Blue Bombers de Winnipeg. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si McManus accepte ou devient le directeur général du côté des Alouettes, bon, il pourra amener quelqu'un d'organisation des Bombers avec lui. Il s'agit du directeur du dépistage universitaire, Ryan Rigmaiden, qui pourrait s'amener à Montréal, naturellement. McManus voudrait s'entourer de gens qu'il connaît bien. Alors, s'il pouvait amener Rigmaiden avec lui, bon, ça serait ça. Il pourrait l'amener à titre de directeur général adjoint, mais ça, c'est si il devient le prochain directeur général des Alouettes. McManus, vous le connaissez, il avait été carrière, il a été un excellent carrière au sein de la Ligue canadienne de football, notamment avec les Tiger Cats de Hamilton, mais il a gravi les échelons. Il avait commencé à titre de dépisteur, maintenant assistant directeur général à Winnipeg, donc il l'a fait ses classes. Il semble, lorsqu'on regarde à travers la Ligue canadienne, c'est une des personnes les plus qualifiées, qui semble du moins être les plus qualifiées afin de devenir directeur général. Maintenant, on va voir s'il pourra bien s'entendre avec l'organisation montréalaise, bien s'entendre avec Kerry Jones, naturellement. Et si les Alouettes vont vouloir de lui également, si les Alouettes vont juger qu'il est apte à devenir leur nouveau directeur général. Alors, ça sera un dossier à suivre. Qui sait, peut-être que les Alouettes vont nous faire une annonce au cours des prochains jours. La période des fêtes s'en vient. Alors, moi, on m'a toujours dit depuis le début que cette embauche-là devrait être faite avant la période des fêtes du côté du prochain directeur général des Alouettes. Alors, on va voir. On est rendu le 9 décembre. Alors, ça donne quelques semaines aux Alouettes afin de régler ce dossier. Eh bien, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.